Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Une émission consacrée à la magie de Dominique Duvivier avec Dominique Duvivier. Bonsoir Dominique Duvivier.
Bonsoir Lionel.
Comment allez-vous?
Ben ça va bien.
Bien. Alors on se retrouve. Et comme promis, aujourd'hui, on parle magie. J'aimerais parler de la lisibilité des effets, si vous voulez bien. Je creuse un petit peu mon propos. Il me semble que beaucoup de routines peuvent être confuses pour les spectateurs et que, du coup, ça les empêche d'apprécier l'effet magique, on va dire, dans sa pureté. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça?
Non.
Comment ça?
Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que justement, ce que je trouve intéressant, si on prend encore certaines personnes qui ont tendance à penser des choses négatives sur ce que je fais, sur ma magie, ils ont tendance à dire depuis le début, depuis tout ce que j'ai fait, chaque chose, que ce que je fais c'est illogique, et du coup que le spectateur est perdu dans ce que je fais. Parce que je ne suis pas chronologique, je ne suis pas logique, je ne suis pas... oblitérer magie classique, quoi. Tu vois, je fais pas le truc. Si on fait un as leader, on doit faire un as leader, quoi. Tu vois, on doit. T'as vraiment, c'est le principe de la galinette, quoi. Tu vois, comme disaient les inconnus, t'as la façon de bien chasser la galinette, puis t'as la mauvaise façon de chasser la galinette. Moi, je pense que. Je pense qu'on peut. À partir du moment où on est un auteur, et je pense être un auteur, si tu défends ton beefsteak, qui est ton texte, ton tour, ton effet, ta technique, enfin, un ensemble, puisque tu vends une routine, tu vends un tour, tu vends un spectacle. En gros, ça se résume à ça, puisque ça commence par une idée ou un bout de quelque chose, mais petit à petit, ça va devenir un effet, cet effet va en créer d'autres. Ça va former des routines, et ces routines vont former un spectacle, si on a envie de faire quelque chose qui dure ou 30, 40, 50 ou 1h30. Nous, on fait des spectacles d'1h30, mais on fait des modules de 25 minutes, de 30, ou de 40, ou de 50. On fait les modules qu'on veut, en fait. Mais nous, on fait au double fond, quand on est au double fond, des modules d'1h30. Donc, pour fabriquer un spectacle qui dure 1h30, qui est basé donc sur une multitude d'effets et de choses dites et non dites, bien évidemment que si on veut être logique, si on veut être très pragmatique dans le sens de la magie classique, je dirais, quelque part, on ne peut pas bien s'en sortir. Parce que la magie, si elle est vraiment vécue intrinsèquement, je ne vais pas dire qu'elle est chiante, mais elle est quand même linéaire. Et justement, je crois que c'est ça qui fait en partie la complexité des rapports que j'ai avec certains confrères, justement, parce que je pense qu'au-delà qu'on dise des choses négatives ou qu'on me calomnie d'une façon ou d'une autre, je pense que le fond du problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai vu, tu vois, par exemple, je fais une parenthèse, quand j'ai fait une tournée en Amérique avec Gaëtan Blum, du reste, où il était conférencier ainsi que moi, il y avait vraiment deux écoles, tu vois. Et pourtant, là, je sais qu'il y a quelques-uns qui avaient été intoxiqués par quelques Français, mais dans l'ensemble, oui. Là, les Américains qui voient Duvivier comme ils voient Blum, ils vont préférer Blum souvent, mais ils vont bien aimer Duvivier aussi, tu vois, ça se passe bien. Hein, mais quand je faisais par exemple ce que j'appelle le running gag, hein, c'est un concept que m'avait imaginé Christian Fechner sur mes mouvements et sur mon axe, enfin sur mon en sketch, qui est en fait l'art, pour, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art de laper devant les gens en leur montrant qu'on lape, mais sans pour autant débiner le lapping.
Ouais.
Hein. C'est un jeu. On leur dit, regardez, ah vous avez pas vu, ah ben non vous avez pas vu, bah, pourtant il est tombé sur mes genoux. Alors, les gens ils hallucinent parce que ils n'ont pas imaginé une seconde que tu avais fait tomber sur les genoux ton jeu de cartes par exemple ou une pièce de monnaie. Pourtant c'est ce que tu as fait.
Oui.
Et donc le jeu va consister à qu'ils essaient de voir ou de comprendre ou d'imaginer que tu viens de faire tomber. Et pourtant non, ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Mais ils le savent parce que tu leur dis.
Oui.
Et ça, c'est là où je reviens en cas d'école, j'avais vraiment la moitié du public que je voyais qui trouvait ça génial, puis l'autre moitié qui n'était pas d'accord. Parce que, ah putain, du vivier, il montre le lapping.
Ouais.
Alors que du vivier ne montre pas le lapping. La preuve, c'est que j'ai fait combien de fois mon running gag en public, vrai public, en me payant le luxe, comme je l'ai déjà dit sûrement à cette antenne d'une autre façon, en me payant le luxe, après le running gag, de faire les pièces à travers la table, avec lapping, sans que personne imagine que j'avais fait des lappings.
Oui.
Ce qui est la preuve, mais la vraie preuve, je parle pour le spectateur lambda, je ne parle pas pour le torturé magicien, hein, qui lui forcément trouve ça pas bien, comme le même pensait que c'était pas bien de montrer dans l'imprimerie une carte avec deux bouts de cartes, parce que ça voulait dire qu'on utilisait des cartes truquées ou des cartes double face. Mmh. Alors que je ne pense pas que le spectateur puisse penser qu'on utilise des cartes double face. On vient de mettre une carte sur une autre, bah, elle vient de prendre sa face, on le met de l'autre on met la carte de l'autre côté, du côté dos, elle n'a plus de dos, elle a la même face que l'autre. On ne vient pas de fabriquer une double face, on vient d'imprimer magiquement, parce que nous sommes des magiciens, des cartes.
Oui.
Donc tout ça pour dire que je ne pense pas que ça soit que de la polémique de base, il y a un problème de fond, parce que justement je pense que le magicien lambda moyen, je dis bien, n'est pas habilité encore à comprendre que la magie, si tu la propulses avec un scénario, avec une conviction. Là, je voyais une élève, par exemple, que j'avais pas plus tard qu'hier. On faisait elle faisait, tu sais, les deux petits anneaux, l'anneau de rideau,
oui,
que tu donnes à examiner.
Oui.
Tu les mets l'un contre l'autre et finalement
oui,
ils tiennent.
Oui.
Et après, tu tapes avec un doigt et tu vois l'anneau qui tourne autour.
Oui.
Hein, et tu vois ça, c'est très magique. Mm-hmm. Tu vois. Et après, tu fais mettre la main du spectateur dessous. Et là, clic, il y a un des anneaux qui tombe,
ouais,
puis il y a l'autre que tu donnes, et tu donnes les deux à examiner, et puis voilà. Bon. Elle me fait ça, pas top top, tu vois, et je lui dis, mais pourquoi, t'aimes pas? Elle me dit, si, j'aime bien, mais enfin bon, elle me fait comprendre à sa façon que connaissant le truc, donc je vais pas en parler là, mais ben, elle a du mal, tu vois, à vivre le truc.
Ouais.
Alors moi, je lui prends ses anneaux des mains, un truc que je fais jamais, et je lui refais, et là, je vois ses yeux, genre, ah ouais, c'était beau. Bah, je lui dis, tu vois, si c'était beau, moi, je ne sais pas le faire, le tour. Bon, non, il n'est pas dur, on est d'accord. Mais pourquoi tu as trouvé ça beau, lui dis-je? Bah, parce que moi, j'y ai cru. Et moi, je trouve ça génial que deux anneaux que tu peux examiner, qui sont normaux, qui puissent aimanter l'un l'autre, alors qu'ils ne sont pas aimantés.
Oui.
Et qui vraiment y tiennent, et puis ils roulent autour l'un de l'autre, et puis après tu les donnes à examiner, t'as rien dans les mains, enfin, c'est incompréhensible. Moi, c'est ce que je crois.
Mm-hmm.
Donc, quand je te l'ai fait, c'est ce que j'ai cru, moi. Je me suis pas dit des trucs pendant que je le faisais. Bah, dis-toi pas des trucs et tu vas voir, ça change tout.
Oui, parce que du coup, vous n'y croyez pas, pendant que elle vous le faisait.
Non, parce qu'elle m'avait fait ne pas le croire.
Oui.
Et ça, je crois que c'est la base, justement, de la question que tu me poses.
Mmh.
Moi, combien de fois on m'a dit alors, le contraire de ce que tu me dis, c'est-à-dire, c'est incroyable, vous nous embarquez dans des trucs, vous nous faites des choses, mais comment les gens arrivent à suivre ce que vous dites, ce que vous faites? Parce que, des fois, je termine mon effet numéro 1 20 minutes après. J'en ai fait 12 000 entre les deux. Hein, et pourtant, les gens vont se rappeler, mettons, c'est la carte choisie, ou peu importe quoi. Mais je me suis pas occupé d'eux. Enfin, j'ai pas fait le truc comme on doit faire. Et pourtant, ils vont se rappeler de tout, ils vont tout ramifier et tout va bien. Bah parce que je pense qu'on est avant tout, si on le veut, des conteurs, des raconteurs d'histoires, quelque part des cinéastes sans caméra. On raconte quelque chose. La magie n'est qu'un outil. C'est un effet spécial, c'est des effets spéciaux, si tu veux. Grâce au fait que nous sommes magiciens, on va montrer, parce que nous sommes magiciens, que ce qu'on narrait, ce qu'on racontait, ce qu'on faisait imaginer, se vérifie. Et ça se vérifie parce que nous savons faire des choses avec la magie, avec des principes techniques. Mais moi, mon travail, c'est justement de travailler les principes techniques de telle façon bah, qu'on ne sente pas qu'il y a des principes techniques, justement. Contrairement aux fameux confrères dont on parle de temps en temps, qui, eux, vont au contraire montrer leur dextérité, leur agilité. Mmh. Moi, j'ai envie que les spectateurs se disent « Mais comment il a pu faire ça? Il n'a rien fait. Mmh. » C'est pas possible. Si on veut aller vers un certain miracle, entre guillemets, tout relatif, mais quand même miracle, bah, il faut que le spectateur il puisse se dire « Mais il n'a rien fait. Il n'est pas intervenu d'aucune façon. » S'il n'est pas intervenu et que la chose s'est passée, ben là, on commence à toucher du miracle. Si le mec, il a fait les cartes, machin, si on prend un tour de cartes, tu choisis une carte, alors le mec, il te fait un double éventail, un double salto arrière, bim, bim, ça rebondit sur le coude, et hop, là, la carte, elle arrive même à être remise dans le jeu, dans l'espace, tellement que le mec, il n'a même pas touché parce qu'il avait donné une impulsion énergétique, pas possible. Et hop, la carte, elle est rentrée, poum, 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 et là, tout pop, il se la retrouve dans la bouche. Et ils vont dire, putain, le mec, il touche gravissime, quoi. Mais est-ce qu'ils vont se dire, ce mec est un sorcier? C'est pas dit, hein. Mais si la carte, elle a été choisie par le spectateur lui-même, mélangée avant, montrée, remise par lui-même dans le jeu, remélangée, et maintenant le magicien, par exemple, hein, il snap, il y a une carte qui sort du jeu alors qu'il n'y a pas touché, et c'est la bonne, bah oui, je pense que là, on ne va pas se dire, même tu vois, à la limite, on ne va même pas se dire, alors pourtant je viens d'inventer un truc à la con, là, que je viens de te dire, on ne va même pas dire c'est électronique, parce que ça ne sert à rien. Dans les conditions, je viens de dire, qui est électronique, tu vois. Le mec, il vient de mélanger les cartes, il les a coupées, il a fait tout. Il garde à la limite le jeu dans la main, il le met sur sa main, le magicien snap, et pssst, il y a une carte qui sort, allez-y, prenez-la. C'est quoi? Oui, c'est ça. Le mec, il devient fou. Si tu lui fais ça, t'es d'accord quoi? Peut-être qu'on ne sait pas faire exactement ce que je viens de dire, mais on peut quand même arriver à pas loin.
Oui. Oui.
Bah, si on fait ça, évidemment, d'un point de vue, je me la pète parce que je suis un technicien haut niveau, pas top. Mais d'un point de vue, je suis magicien et quand même, je fais partie des cadors, là, oui, tu y es. Et là, pour l'instant, tu as vu, on n'est pas dans un scénario, on raconte pas une histoire. Là, on est vraiment dans le basique, si on peut dire, d'un tour de base, même si le tour, il est super balèze. N'empêche que c'est un effet d'une carte choisie retrouvée et puis qui sort du milieu du jeu. C'est une houlette, quoi. Hein, bon. Donc après, tu peux très bien... justement, ça fait partie, moi, de mon centre d'intérêt. C'est où je vais essayer de trouver exactement ce que je viens de te dire. Ou, si c'est... pour une commande, ou pour quelqu'un d'autre, ou même pour moi, mais dans des conditions spécifiques, eh ben, je vais garder ce que je viens de te dire, et je vais essayer de m'en rapprocher avec la houlette, avec les moyens dont on dispose dans la magie traditionnelle, mais en ayant à la pensée, à la créativité, si je puis appeler ça comme ça, comment je peux donner la sensation au spectateur alors que je ne l'aurais pas fait comme ça, qu'il l'ait vécu, comme je viens de le dire.
Oui, oui.
Moi, c'est ça qui va m'obnubiler.
Oui. Et c'est là où vous allez peut-être entrer dans la mise en scène, dans le texte, pour utiliser d'autres outils que des outils purement techniques ou purement magiques pour arriver à cette fin-là.
Exactement. C'est là où, moi j'appelle ça une enquête policière, j'en parlais dans un échange épistolaire que j'ai avec un correspondant qui me pose des questions sur la magie. Je lui parlais justement de ça par rapport à la créativité, je ne sais plus quand, il n'y a pas longtemps, il y a 2, 3 jours. Donc je reprends le thème. Ce que j'appelle enquête policière, c'est que pour moi, c'est vraiment comme une enquête, un tour de magie, dans le sens que là, on vient de mettre les ingrédients de base sur la table, en réalité.
Oui.
Puisque même si ce truc m'intéresse pas à outre mesure, comme je viens de te le dire, on continue dessus.
Bien sûr.
Jeu mélangé, carte choisie, repère lui dans le jeu, le jeu est mis sur la main du spectateur, puisque c'est lui-même qui a tout fait, et maintenant on snap et il y a une carte qui sort et c'est la bonne. Bon. Donc ça, c'est, je dirais, ce qu'on voit. Donc si on remet ça dans le cadre d'une enquête policière, bah, c'est les ingrédients dont on dispose. C'est les ADN de personnes, c'est. Il y a un fauteuil qui a été désarçonné, un lit qui a été éventré, c'est des indices.
Oui.
Est-ce que ces indices vont nous servir directement ou indirectement à l'enquête? C'est pas sûr. C'est probable, mais c'est pas sûr.
Oui.
On a un ensemble de trucs, donc il faut qu'on dissecte tout ça. C'est pour ça que c'est. Bon, jamais fait d'enquête policière vraiment, mais comme on en voit beaucoup dans des films ou dans des romans, on connaît un peu, hein, même si c'est pas forcément comme ça se passe. Bah, moi, ce que je fais quand je travaille sur une chose nouvelle, bah, évidemment que ça n'a pas d'intérêt, parce que ce que je viens de dire, même si ça a l'air dingue, moi je trouve que c'est très basique. On peut aller beaucoup plus loin. Mais admettons que ça soit que ça, bah, j'ai quand même de quoi bosser. Avec mes fameux indices policiers, si je puis dire, trouver le mobile, parce qu'il y a toujours un mobile dans toute chose, et après, essayer de travailler la crédibilité de tout ça. Parce que moi, je pense que pour aller loin dans le miracle, pour aller loin dans la magie, dans faire rêver les gens, dans les faire oublier leurs problèmes, on doit à la fois, évidemment, leur montrer des trucs incroyable, hallucinant, oui, mais pas non plus en les prenant pour des cons.
Ouais.
Tu vois, genre, exemple classique pour moi, tu as une carte dans l'esprit, il faut que je la trouve. Bon. Bah, surtout dans la mode actuelle, bah, je vais te la faire en télépathie, quoi, je vais te la faire en mentalisme, hein. Je vais te la faire. Que je vais transcender ton mental et puis je vais essayer de deviner ton vide de pique. Hein. Moi, je trouve, évidemment, que c'est la mode. Les gens, ah ouais, comme ils ont envie d'y croire, de toute façon, c'est assez facile de leur faire croire. Mais moi, je trouve ça un petit peu gros. Et puis, en plus, non seulement c'est gros, mais je trouve ça malsain. Donc, moi, ce que je vais plutôt faire, c'est. Le mec, il a son vide de pique dans la tête, hein, pareil. Je vais lui dire, alors voilà. Vous avez perdu, vous avez pensé à une carte, vous l'avez dans l'esprit, vous avez perdu la carte dans le jeu, vous avez mélangé, j'ai touché à rien. D'après vous, est-ce que c'est plus difficile d'en trouver votre carte en touchant les cartes ou sans les toucher? Si le spectateur est à peu près normal, il me dira sans les toucher, c'est plus dur. Si
En
c'est un
effet.
chieur, il me dira,
Oui.
mais il faut vraiment qu'il soit tordu, parce que quand même, c'est plus dur, on peut imaginer si on touche pas, hein.
Mais vous vous posez quand même la question de savoir s'il me répondait ça,
Ah
qu'est-ce que
bah,
je ferais?
ah bah je l'ai. Si tu veux, je te la donne. Parce qu'on me l'a déjà fait, évidemment. Et puis de toute façon, même on ne me l'aurait pas fait, je me la serais dite. Hein. Parce que moi, je ne suis pas le genre à poser une question et pas avoir la réponse possible. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait 3, 4 ou 5 ou 10 réponses possibles. Et souvent, c'est des familles de réponses. Hein. Alors on est bien d'accord. Si le spectateur me dit le contraire, c'est-à-dire en principe, il doit me dire. Bah,
Sans y toucher.
sans y toucher, c'est plus dur. Mais là, il me dit, c'est en touchant que c'est plus dur. Je dis, ok. Alors, reprenez le jeu en main mentalement. Remélangez les cartes. Mélangez-les bien. Pensez bien à ce que vous faites. Posez le jeu. très bien. Maintenant, je vais essayer, par l'analyse morphosquelettique, parce qu'en fait, je vais continuer à mon truc. Je n'ai pas eu le temps de parler, parce que tu m'as dit, bah, tiens, prends l'autre solution. Et maintenant, je vais me retrouver dans la situation de ne pas toucher le jeu.
Hop.
Parce que moi, je fais comme je veux. Tu vois ? Il me donne l'autre solution, pas de problème, ben, je vais faire comme tu dis, mais je vais faire comme je veux. Et pour finir, on fera pareil que comme c'était prévu, et puis je t'emmerde. Tu vois, le mec, il ne saura pas, mais c'est ce que je pense, moi. Parce que pour qu'il me dise, avec le jeu, c'est ou il veut m'emmerder,
oui.
Ou il n'a pas écouté la question.
Oui, oui.
Hein, parce que s'il est un peu sensé, il va me dire... sans toucher, c'est plus dur.
Bien sûr.
Donc, je ne sais pas si c'est négatif ou pas, mais de toute façon, c'est con, sa réponse, parce qu'il devrait me dire sans toucher. Donc, s'il me dit en touchant, ben, je vais lui dire, ok, alors donc on va toucher.
Ouais.
Alors, vas-y, touche. Hop, je fais toucher lui, tu vois. Maintenant qu'il touche lui, ben, ok, ben, on ne touche plus, puis maintenant, on fait comme je veux. Parce que de toute façon, l'analyse morphopsychologique, c'est ça, ce que je voulais te dire justement avant. À la différence du mentalisme, c'est que même si tu sais pas ce que c'est l'analyse morphopsychologique, parce que moi je vois, j'ai fait des milliers de fois cette révélation, analyse morphopsychologique. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Les gens, non, ils savent pas ce que c'est. Hein. Des fois ils disent oui, mais ils savent pas quand même, tu vois. Dans l'ensemble, les gens savent pas. Mais ça parle.
Oui.
C'est l'étude du visage. C'est-à-dire que vous allez... moi, je fais beaucoup de poker et je suis capable de voir, de déceler chez les gens. Ça parle, ça.
Ouais.
C'est quelque chose... C'est un peu comme si on faisait un bras de fer et que je te dis, je suis plus fort que toi.
Exactement.
Tu vois ?
Ouais.
Je fais du bruit. Pardon. Finalement, tu vois, comment j'ose dire que je suis plus fort que toi ? Ça, c'est un autre problème, mais t'as un bras, j'ai un bras, est-ce que j'ai travaillé ma technique, est-ce que j'ai le bras balèze, j'en sais rien. Mais on reste dans quelque chose de conventionnel, tu vois. Tu peux imaginer, quand je vais te dire, ta carte, attends, bouge pas, tu m'aides pas, hein, mais je vais essayer de la deviner. On va la réduire à sa plus simple expression, c'est le début de ma phrase. Hein.
Ouais.
Elle est au noir, rouge. Ah, t'as bougé à noir, j'ai vu justement quand t'as bougé. Le mec, il se dit, attends, putain, parce que comme je lui demande d'y penser, il y pense. Et je lui dis, ah, t'as bougé à noir. Bah, il n'a pas bougé, mais il a pensé à noir. Donc, penser ou bouger, ça devient un peu synonyme.
Ouais.
Alors que si je commence à lui dire... que je transcende ton mental, machin, là on est plutôt dans l'ésotérisme, dans quelque chose, je répète, qu'il a peut-être envie de penser que tu es capable de faire, mais c'est très abstrait. Mm-hmm. Tu vois ? Alors que si je suis dans ce que je viens de dire, ah, t'as bougé à noir, ben oui, quelque part t'as pas bougé, mais tu t'es concerné par le mot noir. Maintenant, je dis trèfle ou pique. Ah, c'est à pique, t'as bougé, j'ai vu que t'as bougé à pique. Le mec, il commence à dire, putain, c'est dingue. Il est en train de voir comme dans un livre chez moi.
Oui, oui, c'est ça.
Et comme il voit que je suis bon au poker, que je suis bon aux cartes, que je suis... Enfin, il voit plein de trucs, il se dit plein de trucs quelque part, tu vois. Ben, tout ça va faire qu'il va croire que je lui ai deviné l'huit de pique qu'il pense.
Oui.
Sans pour autant lui montrer... que j'ai des pouvoirs supranormaux.
Ouais.
J'ai des pouvoirs, mais supra-ordinaires, finalement.
Vous savez, Dominique ?
Non.
Pour la première fois, je vais vous contredire.
Ah. Vous avec plaisir.
Vous avez des pouvoirs supranormaux parce que vous avez le pouvoir de raccourcir le temps. Parce que quand on vous écoute, on ne voit pas le temps passer.
Tu me fais rire.
Eh bien, c'est sur ces mots donc qu'on va conclure cette émission-là, mais on va continuer cette conversation dans le prochain podcast, promis. À très vite.
Salut.